Bonjour à tous. J'en prie avant. Seigneur, merci pour ce temps de message, Seigneur. Je te prie vraiment de me donner ta sagesse, ton esprit, Seigneur. Que tu puisses délivrer le message d'aujourd'hui, Seigneur, selon ton cœur, selon ta volonté. Et vraiment, que je puisse vraiment exposer clairement, Seigneur, ce que Paul a voulu écrire à travers cet épître de Galates, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Avant de vous partager le passage que nous avons choisi aujourd'hui, en fait, c'était le conseil des diacres, il y a c'est Clément et Francis qui ont fixé les passages que nous prêchons chaque dimanche. Et là, je vais vous présenter un peu, parler le contexte et l'arrière-plan de cet épître. Le pourquoi Paul écrit cet épître et le nom Galatie, ça peut comprendre à deux façons. Ça peut être la Galatie du Nord, ça correspond à un nom ethnique. En fait, ça veut dire c'est les Gaulois et les Celtes qui sont immigrés, qui sont passés de la Gaule vers cette région centrale de l'Asie mineure qui est la Turquie actuellement. Au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est une région très montagneuse et difficilement accessible. La deuxième, ce qu'on peut apprendre pour la Galatie, c'est en l'an 189 avant Jésus-Christ, les Romains ont conquis toute la région et ils ont donné le nom province de Romaine, ça s'appelle la Galatie. Ça comprend la Galatie du Nord, ethnique que je viens de vous parler tout à l'heure, plus les autres districts de la région, incluent le Lycaonie, Phrygie et Pisidie. Tu peux passer le... En fait, je passe cette... Ça, c'est le voyage, premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc, vous voyez que ici,
vous voyez Galatie en haut, donc là-bas, c'est le... Et après, la région romaine, il y a le Lycaonie et le Phrygie en bas. En fait, ça correspond
à toutes les villes que l'apôtre Paul est passé dans son premier voyage missionnaire. Donc, il y a la Syrie de la Pisidie, Iconion, Nium, Lystre et Derbe. Alors, maintenant, en parlant de la date et les destinataires, il y a deux propositions, deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que Paul écrit aux Galates du Nord, mais c'est après le deuxième voyage missionnaire, la troisième. Mais on ne trouve pas trop de... Moi, j'ai opté pour l'hypothèse du deuxième, c'est qu'ils écrivent à la ville dans les Galates du Sud, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pendant son premier voyage missionnaire, parce que on pense que c'est écrit vers l'an 48 après Jésus-Christ, parce que le concile de Jérusalem a lieu l'an 48 après Jésus-Christ, et on pense que Paul a écrit cette épître avant que le concile ait lieu. Sinon, il n'y a pas eu l'histoire qu'il a repris Paul, Pierre, de manger avec les païens. Donc là, il y a certains qui optent pour la première ou deuxième. Là, j'ai opté pour que ça soit Paul écrit à ses chrétiens. C'est pendant les quatre villes que vient de nommer, dans Syrie de la Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Ça, c'est Luc l'a écrit dans le livre des Actes, du chapitre 14, 19 jusqu'au chapitre 20. Chapitre 13, verset 13, jusqu'à chapitre 14, 23. Donc, là, la datation, on dit que c'est vers l'an 48 après Jésus-Christ, juste avant le concile de Jérusalem. Vous vous souvenez ce que c'est le concile de Jérusalem? C'était parce que les faux docteurs, ceux qui sont il y a 10 ans, ils sont arrivés à Antioche. Il propose que pour être sauvé, il faut rajouter à la foi en Jésus-Christ le respect de la loi plus la circoncision. La question devient trop chaude. Pour le Barnada, ça dit, on dit qu'on doit aller voir les apôtres de Jérusalem, donc ils sont allés voir. Et ça, c'est le concile de Jérusalem, ça a lieu en 48 après Jésus-Christ. Donc, maintenant que la lettre, Paul l'a adressée pas à une seule église, mais à ses plusieurs églises qu'il a fondées pendant son premier voyage missionnaire. Alors, à l'époque, pourquoi Paul a écrit ça? Parce que il a reçu les nouvelles comme quoi, à peine Paul est parti de ses églises, il y a des faux docteurs qui sont arrivés. A priori, ils viennent de l'extérieur et sont soit judaïsants, soit judéo-chrétiens. Ils pensent que Paul prêche un évangile qui n'est pas correct, et il veut rajouter à la foi en Christ toujours la circoncision. N'oublions pas que si vous lisez les Actes, à chaque fois quand Barnabas et Paul sont arrivés dans ces villes, Syrie de la Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe, ils sont allés d'abord dans le synagogue prêcher aux Juifs, mais les Juifs rejetaient l'évangile. Donc Paul s'est retourné vers les non-juifs et là, il y a eu beaucoup de convertis. Les juifs l'ont vu ça, ils sont jaloux, ils persécutent Paul. À chaque fois, ils sont passés d'une ville à l'autre. Et c'est à Lystre que Paul a été sévèrement, vraiment lapidé. Il est presque en pensée, les juifs l'ont lapidé, ils sont venus, ils l'ont pourchassé depuis Pisidie, Antioche de Pisidie, de Iconium, ils l'ont poursuivi jusqu'à Lystre. Vous voyez la hargne qu'ils ont pour Paul. Donc il a lapidé, il croyait qu'il est laissé mort. Et Sylvain Romestrovski, quand j'ai eu cours à Nogent, il nous a expliqué qu'on pense qu'à cette époque-là, Paul il a eu des blessures assez graves aux yeux. C'est pour ça que vous lisez plus tard dans Galates, il a dit aux Galates, je suis venu prêcher chez vous avec un handicap et vous avez presque, si c'est possible, vous arrachez les yeux pour moi. Et vous voyez sur les autres lettres, il a écrit avec gros lettres. Donc ces deux indices nous font penser probablement, cette fois-ci, il a été sévèrement blessé au niveau de l'œil. Voilà, donc Paul a entendu les nouvelles, les mauvaises nouvelles à propos des chrétiens de Galates. À peine Paul est parti, les faux enseignants sont arrivés, ils ont prêché une autre forme de l'évangile. Du coup, en plus, là-dessus, il sous-entend que Paul est apôtre par lui-même. Il met en doute le titre de l'apôtre et l'autorité de l'apôtre, Paul. Et en même temps, il met en doute l'enseignement de Paul dans l'évangile que Paul prêche. Voilà, c'est pour ça qu'il sous-entend que Paul n'est pas aussi célèbre ou aussi important, avoir autant d'autorité que les apôtres de Jérusalem. Pierre, Jacques et Jean, que Paul plus tard, il disait, les plus considérés. Pour eux, Paul est inférieur à ses apôtres. Et justement, Paul, dans l'objectif de l'épître Paul, justement, c'est pour leur rectifier, défendre la vérité de l'Évangile, que seule la croix du Christ amène au salut. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Paul ne supporte pas que les autres disent que Jésus est mort à la croix pour rien. Parce que s'ils rajoutent le respect de la loi ou la circoncision à ça, c'est-à-dire que Jésus est mort à la croix pour rien. Voilà, c'est pour ça que Paul, et en même temps, il va donner des preuves pour attester son autorité, son appel. Voilà. Donc maintenant, on va voir le passage. Voilà. Bon, maintenant, on va voir, c'est le passage qu'on a choisi du Galates 1, verset 10, jusqu'à Galates 2, verset 10. Ça concerne la vie et le ministère de Paul. Et là, je l'ai partagé en deux petits sous-chapitres. Voilà. Donc, du Galates, chapitre 1, verset 10 à 24, Paul montre par là que son appel vient de Dieu. Tout d'abord, il a commencé à dire qu'il est le serviteur du Christ. Et étant serviteur de Jésus-Christ, il cherche à plaire à Dieu. Ça, ici, il atteste déjà qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. C'est pour réfuter l'accusation de ses adversaires qui sous-entend que Paul cherche à plaire aux hommes. Et ça, ça me rappelle que dans l'acte 4, verset 19, les apôtres Pierre et Jean, quand les chefs du peuple les ont menacés de ne pas prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, ou plutôt Dieu? Jugez-vous en vous-même. » Et pareil, dans l'acte 5, verset 30, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Voilà ce que les apôtres ont répondu quand ils étaient persécutés, menacés par les chefs du peuple pour leur interdire de prêcher l'évangile. Donc Paul, il adopte la même attitude. Il cherche à plaire à Dieu. Et ça, ça me fait penser à nous, en tant que serviteurs de Dieu, ou même en tant que chrétiens lambda. Est-ce qu'à chaque fois, les hommes, on cherche tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes ou on cherche à plaire à Dieu? C'est facile à dire que de faire. C'est sûr, tout le monde dit « je cherche à plaire à Dieu », mais est-ce que dans notre vie, c'est facile le dimanche matin ou l'après-midi au culte, on le fait et qu'on est encouragé avec les frères et sœurs ensemble, et qu'on est tous seuls dans nos coins, entourés des non-chrétiens, est-ce qu'on arrive encore à avoir l'attitude, certitude comme Paul, dire que je cherche à plaire à Dieu? Voilà, vraiment, je vous encourage chacun entre nous, vraiment, d'avoir vraiment cette idée en tête. Tout ce que nous faisons, comme dit l'apôtre Paul plus tard, c'est faire-le pour la gloire du Seigneur. Alors, par la suite, Paul, il explique sa vie avant la conversion. Il a aussi dit que sa révélation, son enseignement de l'Évangile ne vient pas des hommes. C'est pareil pour réfuter ses adversaires. C'est-à-dire dit qu'il a été chercher les enseignements auprès des apôtres de Jérusalem. Mais là, Paul nous a dit que après sa conversion sur la route, le chemin de Damas, pour Paul, quand Paul parlait de sa vie avant la conversion, il était un pharisien très zélé sous l'école Gamaliel. Il a dit il est le meilleur, le plus zélé de tous ses élèves. Il dépasse. À l'époque, il était pharisien, il était judaïsant, il cherchait à persécuter les chrétiens, à persécuter les disciples de Christ. À l'époque, il n'a jamais pensé un jour il va être l'apôtre des païens. Là, il montre bien qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand il fait quelque chose, il s'engage à fond. Il n'est pas tiède. Alors, quand il était pharisien, il persécutait les chrétiens, il allait jusqu'à aller à Damas. Il allait chercher un mandat d'arrêt auprès des chefs, des prêtres, pour aller arrêter les chrétiens à Damas. Et sur le chemin, le Seigneur s'est réveillé à lui. Après cette révélation, la vie de Paul s'est transformée 360 degrés, complètement. À la place d'être un persécuteur des chrétiens, il est devenu un défenseur de l'Évangile. Donc vous voyez, ça, si ça ne vient pas du Seigneur, aucun homme ne peut le faire comme ça. Donc déjà, c'est toujours, il écrit tout cela, c'est pour réfuter les accusations qui viennent de ses adversaires. Donc, il a dit vraiment qu'il a été choisi par Dieu. Et je vais vous lire acte 9, versets 15 à 16. Quand Jésus a demandé à Ananias allait voir Paul prier pour lui. Ananias était très peureux au départ. Il a dit, quoi, tu veux que j'aille voir ce tueur des chrétiens? Mais Seigneur lui a dit, n'aie pas peur. Verset 9, 15. Le Seigneur lui dit à Ananias, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc là, Jésus a bien dit à Ananias que c'est Jésus qui l'a choisi. Et c'est Jésus lui-même qui va lui montrer tout ce qu'il doit faire. Et dans son témoignage que Paul a donné lors de ses emprisonnements, il l'a dit lui-même, c'est dans Actes 22, verset 14, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. » C'est Ananias qui a dit à Paul, après que Jésus lui a dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Voilà, c'est ce que Ananias lui a dit, que vraiment Dieu l'a choisi, l'a destiné à entendre les paroles de sa bouche. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Il a bien écrit qu'après sa conversion, il n'est pas allé voir les apôtres à Jérusalem pour chercher l'enseignement. Il est resté à Damas. Ensuite, il est allé au désert de Arabie. Il est resté 3 ans. On pense que c'est à travers ces 3 ans, c'est une période de formation, que Paul a reçu des révélations du Seigneur. Là, il nous a donné quelques... Dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, il a dit qu'il a reçu une vision, il a été amené jusqu'à 3e ciel. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 ans de période à Arabie, c'est vraiment une période de formation. Donc, Paul a bien réfuté ses adversaires. Une fois qu'il est converti par le Seigneur, il a vu Jésus-Christ ressuscité. Donc, il a quand même une rencontre réelle, intime avec le Seigneur. Et après, c'est Jésus qui s'est révélé à lui à travers les révélations pour lui enseigner qu'il puisse prêcher le message. C'est ensuite, 3 ans après, qu'il est monté à Jérusalem voir Pierre. Il a vu Pierre et Jacques. Cette fois-ci, c'est vraiment une visite privée. Ça correspond à ce que Luc écrit dans Actes 9, 23. Et à l'époque où il est allé, tous les chrétiens avaient peur de lui encore. Et c'est seulement Barnabas qui a eu le courage de l'amener pour présenter auprès de Pierre. Ensuite, après cela, Paul nous dit qu'il retourne dans sa région, à Tarse. Et là, il est resté pendant 11 ans, puisqu'il dit 14 ans après seulement, il est retourné à Jérusalem. Et c'est après les 3 ans d'Arabie, une fois qu'il est revenu de Jérusalem, il est retourné à Tarse, dans la région de Damas, enseigner l'Évangile. Jusqu'à ce que Barnabas est envoyé par les apôtres de Jérusalem, quand ils ont entendu parler des chrétiens d'Antioche, ils ont envoyé Barnabas pour vérifier si c'est bien réel. Et Barnabas, quand il est arrivé à Antioche, il est allé chercher Paul à Tarse pour l'inviter à venir à Antioche pour enseigner les chrétiens ensemble. Voilà, c'est après 1 an seulement qu'ils sont partis tous les deux, envoyés par le Saint-Esprit, démarrer le premier voyage missionnaire. Donc Paul, à travers là, et quand Paul a parlé qu'il est allé voir Pierre à Jérusalem, il a juré devant Dieu, il a dit « je ne mens pas ». C'est pareil, c'est pour toujours, pour réfuter ses adversaires, qu'il accuse qu'il est un menteur. Donc là, c'est vraiment, il est sévère. Paul, il a dit vraiment, je ne mens pas. Et nous qui faisons l'étude biblique des Actes, dans les cellules maison, nous voyons que Paul, c'est quelqu'un qui est constance. Il n'a jamais été menteur. Donc finalement, c'est ses adversaires qui sont les menteurs. Donc à travers tout ce que Paul a écrit dans ces versets, il montre à ses chrétiens de Galate qu'il est vraiment choisi par Dieu. Parce qu'il a dit, il a été choisi dès le sein de sa mère. Ça peut bien comprendre avant sa naissance ou dès sa naissance. Donc c'est Dieu qui l'a choisi, son appel vient. Son appel vient vraiment de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Je vous ai lu tout à l'heure, Jésus a dit à Ananias, c'est moi qui l'ai choisi pour être apôtre des païens. Oui. Voilà. Donc avant de ça, je vous ai dit, son appel est vraiment venu de Dieu. Son enseignement est venu du Christ. Donc il a tout reçu du Seigneur, de Dieu. Pas par les hommes, pas par les apôtres. Et donc là, on va passer au Galates 2, chapitre 2, versets 1 à 10. Donc là, ils disent que 14 ans après, il est retourné à Jérusalem. Et ce retour correspond à ce que c'est dans Actes, chapitre 11, 28 à 30, et chapitre 12, verset 25. C'est à l'époque où... un prophète prophétisait qu'il y a une grande famine dans tout le monde entier. Et là, les chrétiens d'Antios ont voulu donner des offrandes pour que Paul et Barnabas les amènent à Jérusalem pour subvenir aux besoins des chrétiens pauvres de Jérusalem. Et donc là, il est revenu voir les apôtres. Et là, il a dit les plus considérés. C'est pareil, c'est toujours... réfuter les accusations de ses adversaires. Les adversaires sous-entendent que Paul, c'est un apôtre qui n'est pas justifié, il est moins important que les apôtres de Jérusalem. Mais peu importe, Paul l'a écrit, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas la légitimité qui importe. Pour lui, le plus important, c'est la vérité de l'Évangile. C'est la doctrine du salut. Donc, en allant à Jérusalem, il a pu exposer son ministère auprès des païens. Et là, les apôtres ont vraiment vu, puisque nous avons vu, ils ont reconnu la grâce qui m'a été accordée par Dieu. Et quand le verset 5, quand il dit « nous », je pense qu'il parle de Paul, ses collaborateurs, Tite, plus les autres apôtres. C'est-à-dire que les apôtres ont tous d'accord avec l'évangile que Paul prêche auprès des païens. Et là, à l'aide d'exemple de Tite, Tite, c'est un grec, c'est un chrétien grec. Donc, par définition, les païens ne sont pas circoncis. Mais là, Paul traite les adversaires, les faux frères, parce qu'ils veulent encore obliger Tite à se faire circoncis pour obtenir le salut. Mais cette fois-ci, Paul il est content parce que les apôtres de Jérusalem n'ont pas imposé à Tite de se faire circoncis. Donc ça veut dire que pour les apôtres, ils ont la même doctrine du salut que Paul. Ça, c'est très important, que le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ crucifié. Donc là, Paul, il est très content, il a dit, nous ne cédons pas d'un instant à ces exigences de ses faux frères. Ça montre par là que les apôtres de Jérusalem, les plus considérés, et puis Paul, peut-être les autres disent que c'est le moins considéré, tous y prêchent le même évangile, le même salut par la croix, la même doctrine de salut. Et dans le verset 6, Paul a écrit que les apôtres ne lui imposent rien. C'est-à-dire ils n'ont pas rajouté à ce que Paul a enseigné aux païens. Donc, quand il a prêché que le salut est accordé à tous ceux qui croient en sacrifice du Christ à la croix, accompagné de la repentance, ça suffit pour obtenir le salut. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Paul ne se considère pas lui-même inférieur que les autres apôtres, même si le dernier a été appelé par Christ. Pour lui, la célébrité et tout ce qui est, ça n'a pas l'importance. La plus importante, c'est défendre la vérité de l'Évangile, ça ne soit pas déformé. Donc, voyons par là tout à l'heure, quand il était pharisien, il persécutait à mort les chrétiens. Et maintenant qu'il est apôtre des païens, il combat jusqu'au bout pour défendre les évangiles. Donc vraiment, Paul est quelqu'un, vraiment, il fait quelque chose, il fait complètement zélé. Je souhaite bien que nous puissions ressembler à Paul, vraiment tout engagé à fond. Alors, le verset 9, quand Paul dit que les apôtres ont serré la main avec lui et Barnabas, ça veut dire que c'est un accord amical, un accord commun, comme quoi ils ont reconnu vraiment que le ministère que Dieu a donné à Paul, prêcher l'évangile auprès des non-juifs, ça vient de Dieu. Ils ont reconnu vraiment que ça vient de Dieu. Ils ont reconnu aussi que Pierre est pour prêcher l'évangile aux juifs. Donc là, Paul, il réfute ses adversaires parce que les adversaires sous-entendent que Paul prêche un évangile qui n'est pas le même, qui est moins bonne qualité. Mais non, puisque là, par là, les apôtres ne lui ont pas imposé aucune chose en plus. Il lui a serré la main, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment soutenu, reconnu l'apôtre Paul en tant que l'apôtre des païens. Donc, ils ont laissé partir Paul envers les païens, alors qu'eux, ils vont rester auprès du ministère avec les juifs. Et ça, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne chacun un appel différent. On a tous le même boulot à faire, c'est amener les âmes perdues à Dieu. Proclamer l'Évangile à tout le monde. Le message est toujours pareil. La croix est le seul chemin au salut. Par contre, chacun de nous, on peut être appelé vers un ministère différent. Par exemple, la dernière fois, Thomas, il est devenu aumônier des prisonniers. Donc, lui, il a un appel à aller prêcher l'Évangile auprès des prisonniers. Il y a une autre personne qui allait auprès des prostituées, d'autres envers des personnes âgées, d'autres envers des musulmans, etc. Mais ça, c'est des appels différents, mais on prêche tous la même évangile. Et on peut vraiment coopérer tous ensemble. Les apôtres ont vraiment vu ça, et c'est pour ça que dans ces deux chapitres, Paul a bien attesté son statut d'apôtre, c'est Dieu qui l'a choisi, son enseignement, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Il a été reconnu par les apôtres, ils ont vu la grâce de Dieu qui lui a donné la puissance et tout pour prêcher l'Évangile et avoir vraiment la puissance de convertir autant de personnes. Donc, chacun est égal. Pour Paul, il n'y a pas de renommée importe peu. Il compte surtout sur le résultat. Alors, les apôtres demandent à Paul de se souvenir des pauvres. Bien sûr, Paul l'a déjà fait, puisque quand il est retourné 4 ans après voir Pierre, il a déjà amené le premier offrande par les chrétiens d'Antioche. Et on l'a lu dans 1 Corinthiens 16, 14 et 2 Corinthiens 8 et 7. Il ne cesse de rappeler aux chrétiens non-juifs de donner de l'argent à des chrétiens pauvres à Jérusalem. Alors, pour conclure, finalement, depuis que le monde a existé, il y a toujours des... Quand il y a quelque chose qui est vrai, il y a toujours un faux ou des faux qui apparaît. Déjà dans Genèse, Satan a réussi à tenter Ève, ensuite Adam. Puisque Satan propose une parole fausse, il a dit à Ève, est-ce vrai que Dieu vous a dit de manger? Est-ce que vrai? Est-ce que vous allez mourir? Tout ça. C'est vraiment, Satan a commencé. Donc, Satan a réussi à déformer la parole de Dieu, à déformer la vérité de Dieu, à déformer la grâce de Dieu. Puisque Dieu a donné à Adam toute liberté de manger tous les fruits sauf un. Et Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Là, à l'époque-là, il n'a pas beaucoup besoin de travailler dur. Mais Satan a réussi à lui faire douter, déformer la parole de Dieu. Du coup, depuis, on a toujours, à chaque fois, il y a quelque chose de vrai, il y a toujours de faux. Et j'ai pensé, j'ai vu un livre, ils disent que ceux qui fabriquent des faux, ils deviennent de plus en plus perfectionnés. En fait, pour pouvoir différencier ce qui est vrai et ce qui est faux, par exemple, pour les faux billets, je crois les plus intelligents, ils ont compris. Ils ont pris des élèves, ils les ont formés pendant 3 ans. Vous savez ce qu'ils leur montraient pour pouvoir différencier des faux et des vrais? Alors, ils leur apprennent à bien connaître les vrais billets. Ils doivent passer leur temps à toucher les vrais billets, à bien regarder les vrais billets. Et après 3 ans de formation, ils sont capables, en touchant et en regardant, de différencier le faux du vrai. Voilà, il n'y a pas besoin d'une machine pour vérifier. Bon, pour nous, c'est pareil. De nos jours, au XXIe siècle, il y a toujours des faux enseignants. C'est peut-être sous une forme différente qu'à l'époque de Paul. À l'époque de Paul, c'est des judaïsants qui proposent de rajouter au salut du Christ, à la foi, le respect de la loi, la circoncision, donc rajouter des œuvres. Et à l'époque de l'apôtre Jean, dont nous avons vu dans 1 Jean, c'était autre chose. Et au XXIe siècle, ça sera encore autre chose. Puisque j'ai entendu, quand j'ai parlé des évangiles à des malades, ils me disent que, oh, si on fait du bien, du bon à si on fait du mal à personne, toutes les religions se vaut. Voilà, c'est encore une autre forme de fausse. Voilà. Alors, comment faire, nous, les chrétiens du XXe siècle, pour rester attachés à la vérité de l'Évangile? Merci, Seigneur. Il nous a donné sa parole. Si on lisait bien sa parole, qu'on espère la doctrine, la saine doctrine, et en laissant guider par le Saint-Esprit qui est en nous, et ne pas désobéir au Saint-Esprit, et puis prière avec tout le temps en intimité avec le Seigneur, encouragement mutuel entre frères et sœurs, je pense tout ça, ça vous aide à distinguer ce qui est fausse doctrine et vraie doctrine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix, et merci pour le don du Saint-Esprit, Seigneur. Toutes ces choses-là sont vraiment parfaites et suffisantes pour nous garder contre les tentations, les pièges de ce monde, Seigneur, de Satan. Seigneur, donne-nous vraiment toujours soif et faim de ta parole, Seigneur. Donne-nous toujours envie de prendre un peu de temps de notre journée pour rester auprès de toi, Seigneur, pour ressourcer auprès de toi, pour que vraiment tu puisses nous donner ton amour et ta sagesse. Nous puissions vraiment être la lumière et le sel de ce monde et ne pas tomber piégé par l'ennemi, Seigneur. Et que nous puissions aussi voir et aider les frères et sœurs qui sont faibles dans la foi ou qui sont en train de tomber, puissons avoir le courage et la sagesse et l'amour de les aider de voir ta vérité et de sortir de la perdition, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen.